Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Oui, c'est nous, ça, Cube Radio. Bonjour tout le monde. Mercredi 1er avril 2020. J'espère que vous allez bien. C'est pas juste une entrée pour une émission de radio, là. J'espère que vous allez bien. Puis je vous le dis, là, il y aura pas à cette émission de Poisson d'avril. Il y en aura pas. C'est le 1er avril, c'est pas le temps de faire des mauvaises blagues, d'annoncer des fausses nouvelles. Donald Trump va me chicaner, ça marche pas, je ferai pas ça. Alors, juste vous dire ce qui s'en vient à l'émission d'ici 8 heures. Je vous invite à lire Michel Girard qui écrit ce que je dis depuis à peu près 10 jours. Les 6 grandes banques canadiennes sont à la hauteur de leur réputation et font des efforts minimes pour aider les clients, vous et moi. On aura avec nous finalement Willy Gagnon, était censé le faire hier, mais on a manqué de temps, qui est directeur au mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Aussi, le confinement, faut en parler, là, il augmente l'isolement des personnes vulnérables. On aura avec nous Luc Valran, qui est de Suicide Action Montréal. Il y a de précautions à prendre, pour l'isolement des gens. Aussi, on aura... hier, vous avez vu, le premier ministre dit qu'on en a pour 3 à 7 jours de masques, de gants, de ventilateurs, de tests de dépistage. C'est tout de l'équipement de protection. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça à notre disposition? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'en commander au plus sacrant? Alors, l'approvisionnement en matériel médical semble être le moment, pour le moment le principal souci du gouvernement. On va parler avec, on aura avec nous Martin Beaulieu, qui lui est chercheur au Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, qui va nous expliquer comment ça se fait qu'on est rendu là avec l'équipement de protection? Alors, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Il y a aussi notre collègue Dubé qui est en studio, un homme courageux qui a peur de rien. Alexandre,
là,
bonjour.
Toujours là. Oh, quand même, j'ai mes petites craintes, mais ah oui? On est quand même bien pris en charge ici.
Avec es-tu enveloppé de lingettes et
oui totalement. Oui, je suis momifié de lingettes, Benoît, actuellement. Oui, c'est de toute beauté.
Bon, alors faisons le point qui est pas rose, hein, Québec.
Non, non. Puis hier, ça a été une grosse journée. Là. On le voyait tout de suite lorsque M. Legault, M. Arruda, Mme McCann sont entrés dans cette salle de l'Assemblée nationale pour faire le point, un moment que tout le monde attend à 13 heures à tous les jours. On sentait là que les nouvelles n'allaient pas nécessairement être bonnes et elles ne le sont pas sur plusieurs points. Alors, je vous résume la situation. Le Québec est la province toujours la plus touchée au Canada, avec 4162 cas. C'est la plus grosse augmentation à l'espace de 24 heures, une augmentation de 732 cas. Il y a une augmentation aussi au niveau du nombre de morts, Benoît. On est à 31 décès, plus 6 en l'espace de 24 heures, 286 hospitalisations, une hausse de 51 et 82 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 4. Pour ce qui est de Montréal, ce matin, là, Montréal, Benoît, est la ville canadienne la plus affectée par la crise de la COVID-19, 1991 cas. Et c'est toujours Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Rosemont et Ville-Marie, les arrondissements les plus touchés. Pour ce qui est des sans-abri, il y a une bonne nouvelle quand même. On a ouvert un refuge au marché Bon Secours au cours des dernières heures, donc c'est effectif maintenant. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Ce portrait d'ensemble-là qui a été annoncé hier. La deuxième mauvaise nouvelle, et tu y as fait référence en ouverture, c'est la pénurie d'équipement. Et ça risque de faire mal dans le monde de la santé. Là, on va se dire les vraies affaires ce matin. On en a, selon les approvisionnements dont on dispose actuellement, de 3 à 7 jours de stock.
Mais on va comprendre pourquoi 8h-10, Marie-Pierre Caillé, qui travaille sur l'émission, a trouvé ce Martin Beaulieu qui a l'explication d'où ça vient, là, cette façon de faire au Québec. Et je pense que ça va interpeller notre ami Gaétan Barrette, qui a posé des gestes, qui a pris des décisions alors qu'il était ministre de la Santé, de centraliser tous les effectifs, le département pour commander l'équipement de protection. Mm-hmm. Et là, on en voit les résultats. On va lui parler de façon à 8h-10.
Très bien. Et là-dessus, je te fais entendre le premier ministre, François Legault.
Je veux aujourd'hui être clair. Je veux vous dire la vérité. Pour certains équipements, on en a pour 3 à 7 jours Donc, c'est quand même serré. Par contre, on a des commandes qui devraient arriver dans les prochains jours et on a bon espoir d'être capable de passer au travers, là. Donc, je ne veux pas inquiéter personne. Je veux aussi en profiter pour remercier mon ami Doug Ford qui a accepté ce matin de nous transférer certains équipements.
Ouais, Doug Ford a mis un bémol là-dessus, ben oui, hein? En point de presse. Il disait, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas transféré de l'équipement de l'Ontario. On a plutôt donné un contact qu'on avait au Québec pour s'approvisionner. Maintenant, pour ce qui est du fameux masque N95, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a annoncé en point de presse hier qu'on commençait là, à les réutiliser, bien sûr en les nettoyant.
Pour les N95, là, on demande aux gens maintenant de les désinfecter, donc de les réutiliser. Ça se fait. Et oui, on a commencé à le faire. À ce moment-là, on conserve notre marchandise, là, nos stocks. Et ça, c'était très important pour les N95 parce qu'on sait que les N95, on les utilise seulement dans certaines circonstances, mais majeures, quand on fait des procédures sur des personnes qui ont la COVID-19.
C'est quand même... Là, il va falloir poser des questions un peu plus serrées au gouvernement parce que il y a des gens sur le terrain, là, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, là, qui ont peur d'aller travailler, ouais. Qui ont peur pour leur santé. Puis là, on traite ça, ben réutiliser, mettez-le dans le lave-vaisselle ou, tu sais... Pas sûr, moi, de cette approche-là.
Mais t'as raison, quand tu dis l'inquiétude là, des infirmières, du personnel de la santé, ça, on le sent. On le sent, il y a énormément de gens qui contactent les médias pour dénoncer des situations. Il y a même une centaine d'infirmières qui dénoncent via une nouvelle plateforme qui a été mise en ligne par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Les conditions dans lesquelles elles doivent travailler, ces gens-là ont peur d'attraper le virus, ont peur que ça se propage en raison du manque d'équipement. Alors, la FIC qui a ouvert cette plateforme pour recueillir les témoignages des membres et de plus en plus, les gens témoignent là, de ce qu'elles sont en train de vivre à plusieurs endroits. On qualifie les organisations du tiers-monde. On dit que les lingettes désinfectantes viennent à manquer. Mmh. Et là-dessus, Joanne Riendeau, elle est de la FIC de l'ouest de l'île de Montréal, un secteur touché également, témoigne un peu de ce que les membres racontent et de ce que certaines personnes vivent avant d'entrer au travail. Écoute ça, Benoît.
J'ai des infirmières auxiliaires qui pleurent dans leur voiture avant d'entrer travailler. Donc, c'est très, très difficile. Le niveau de stress est très, très élevé.
Ouais, j'imagine, hein. Tu sais pas ce qui t'attend, tu rentres travailler, tu sais pas si t'as le matériel pour te protéger, des gants, des masques, des lingettes, sacramouille. Tu sais, comment se fait qu'on n'a pas ça? Fait que, on va suivre cette histoire-là. Il y a aussi l'éclosion à l'hôpital Jean Talon, la résidence Eva.
Oui, c'est deux situations problématiques qu'on surveille. D'abord, selon le Devoir, il y a au moins 6 personnes, dont une infirmière, qui ont été infectées par le virus à l'hôpital Jean Talon. Et selon ce que nous dit des membres du personnel soignant, la contamination aurait pu être évitée si la situation avait été prise au sérieux, si la situation avait été appliquée, tout ce qui est des protocoles, si ça avait été mis en place plus rapidement. Puis pour ce qui est de la résidence Eva, là, on est à 39 cas de la COVID-19 là-bas, incluant 6 décès. Ce sont les derniers chiffres là, qui sont rendus disponibles. Et plus globalement, là, si on regarde l'état de situation, Benoît, ce sont 400 résidences pour personnes âgées, que ce soit des CHSLD ou encore des résidences pour aînés qui sont touchées actuellement. On le sait là, à quel point c'est dangereux lorsque la COVID-19 rentre dans ces milieux-là, d'aînés qui sont pour la plupart vulnérables, du moins dans les CHSLD, souvent des graves problèmes de santé. Alors ça, ce sont des chiffres, encore une fois, qui sont sortis au cours des dernières heures et qui font sourciller.
C'est pas juste une petite grippe.
Non, là, faut
arrêter.
Honnêtement, là, j'espère que... Honnêtement, là, s'il y a encore des gens qui pensent ça au Québec, on a un sérieux problème.
On a un sérieux problème d'information, de diffusion d'information. La crise qui prend de l'ampleur en Estrie, là, ça va pas bien non plus là-bas.
Parce qu'il y a deux points chauds. Il y a la région de Montréal, tu le sais, mais il y a aussi la région de l'Estrie. Et c'est une crise qui prend de l'ampleur là-bas, à la direction même de la santé publique, où plus d'une quarantaine d'employés ont maintenant été déclarés positifs à la COVID. Ce nombre de cas-là, ça a doublé depuis vendredi. Conséquence directe de ça, on comprendra lorsque les employés sont atteints, on n'est pas en mesure de rentrer au travail. Ça cause une importante pénurie de main-d'œuvre. On essaie d'organiser du télétravail de la part du personnel, mais c'est pas toujours c'est pas toujours possible de le faire.
Ouais.
Alors vraiment là, c'est et on a entendu entre autres le docteur Poirier qui lui est directeur de la santé publique là-bas, n'a pas été déclaré positif, mais il prend ses précautions, ne donne plus d'entrevues en présence de journalistes par mesure de sécurité. Il fait par exemple au téléphone, mais on restreint un peu les contacts là, parce qu'on recense là du côté de l'Estrie là, c'est au-delà de 360 cas. Mmh. Alors c'est extrêmement touché comme région quand on le calcule en fonction de tranches par 100 000 habitants. Montréal et l'Estrie, ce sont les deux régions les plus touchées.
Et Alex, nous sommes le 1er avril, pas de poisson, je le répète, là, pas de poisson d'avril aujourd'hui, là, pas de niaiserie, c'est pas le temps là, c'est pas drôle, pas de mauvaises fausses nouvelles, on a trouvé un médicament, on a trouvé un vaccin, on la voit venir, là, c'est correct, on va s'en passer, mais il faut payer le loyer.
Puis le problème, là, on va se dire les vraies affaires, Benoît, là, ce matin. Il y a des gens qui, en face d'eux autres, n'ont pas 20 piastres.
Ouais.
Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On reçoit des messages, il y a beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait? On mange ou on paye le loyer? Il y en a qui sont rendus là. C'est important d'adresser la situation. On sait que bon, tout ce qui est demande d'aide d'urgence d'Ottawa, ça se mettra en branle éventuellement à partir du 6 avril, mais le chèque n'arrivera pas nécessairement le lendemain.
Bien.
Alors, 1er avril, habituellement, on paye notre loyer, mais ça risque d'être compliqué pour plusieurs personnes. Et il y a un mouvement qui prend forme, celui de la grève des loyers. Alors, je t'explique, il y a des confrontations à venir éventuellement entre locataires, entre propriétaires, parce que les propriétaires ont de la pression aussi. Eux doivent payer l'hypothèque. Sur Facebook, en tout cas, là, il y a différents groupes là, qui s'organisent et il y a des locataires qui réclament carrément une annulation des loyers et des hypothèques pour le mois d'avril. Et en réponse à tout ça, il y a des propriétaires qui ont créé une page aussi pour s'échanger des conseils pour percevoir leur argent. Alors, on a eu un appel lancé par le premier ministre Legault, entre autres, là, un appel pour être compréhensif de la part des propriétaires. Mais on comprend que tous et chacun ont de la pression.
C'est pas là qu'il faut que ça se règle, sacramouille. Là, François Legault, là-dessus, il doit mettre le pied à terre. C'est pas entre les locataires et les propriétaires que ça doit se régler. C'est avec les foutues banques, mm-hmm. les banques qui attendent le paiement d'hypothèque. Puis là, ils disent aux gens, ben payez seulement l'intérêt sur le prêt. Ben oui, mais c'est l'essentiel, souvent, l'intérêt. À moins, tu sais, que le prêt dure depuis, ton hypothèque dure depuis 5-10
ouais.
ans. Mais essentiellement, c'est pas le capital, tu payes au début, là, c'est l'intérêt.
Je te confirme.
Puis les foutues banques ne font rien. Puis j'en ai pété une il y a dix jours avec Mario Dumont. Je disais que c'était des salopes. Et je le répète, les banques sont des salopes. Dans ce cas, dans le temps de pandémie, elles se comportent comme des voyous, des vauriens, puis n'aident pas la clientèle, n'aident pas les citoyens. Là, les cartes de crédit, ça bouge pas, c'est toujours à 20%. Michel Girard l'écrit aujourd'hui dans le journal. Les prêts, là, ça devrait topper à 5%, les cartes à 10%. Moi, je trouve qu'il est trop généreux. 5%, les cartes, là, le taux directeur est à 0,25%.
Oui, parce que la réalité, là, ce matin, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à gorge.
À la gorge. Mmh. Et je vous rappelle que les banques ont fait, en 2019, sauf erreur, 50 milliards. 50 milliards. De profit. Alors là, à un moment donné, là, il va falloir que Justin Trudeau, oh non, moi je m'attends rien de lui, mais il va falloir que François Legault fasse un appel aux dirigeants des banques qui ont fait 13, 14, 15 millions de dollars en salaire, puis sans parler des actions. On va en parler à 8h-20 aussi, de nos 7h20 plutôt, nos amis les banques.
Très bien.
On se reparle tantôt, Alex.
Salut, Benoît.
Du Trisac.